Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons d'altérité confessionnelle dans les contextes islamiques. Est-ce que l'islam classique et standard privilégie l'altérité confessionnelle ou y a-t-il plutôt dans le soufisme cette volonté de s'ouvrir à autrui et le pluralisme? C'est ce que nous verrons avec Hazar Masbah. Bonjour.
Bonjour Monsieur Khaled.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Je dis tout de suite à nos amis auditeurs que vous avez une double vocation. La première, c'est celle d'une chercheur ou chercheuse, puisque moi je ne féminise pas généralement les titres, en sciences sociales, en SHS, les sciences de l'homme et de la société, et aussi en islamologie. Et vous êtes aussi artiste. Et là, c'est plus la polyvalence, vous êtes multidisciplinaire, comme on dit dans ces cas-là. Vous êtes une artiste dans le cas du graphisme, dans le street art, dans les graffitis. Tout de suite, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas sévir comme ça sur les contre les murs de la SNCF ou ailleurs. Vous choisissez vos murs.
Oui, bien sûr. On ne peut pas faire le vandalisme partout. Il y a bien des endroits précis, autorisés, où on peut exprimer avec toute liberté.
J'ai vu, c'est vrai, sur Internet, avant de faire appel à vous, quelques merveilles. Mais cette question m'est venue comme ça. Il y a une forme d'art dit sauvage, si ce n'est pas oxymorique, entre l'art et l'épithète sauvage. Et puis, il y a des endroits autorisés. Donc, vous exprimez votre art et vous l'exécutez en toute liberté et en connaissance de cause.
Tout à fait.
Alors, revenons à ce qui vous amène ici, tout en vous remerciant. Vous préparez une thèse de doctorat sur le soufisme, pas uniquement sur le dialogue interreligieux, le dialogue interconvictionnel, mais dans une approche soufie. Ce qui m'a intéressé dans vos travaux, c'est cette ouverture sur autrui. Dans les contextes islamiques d'une manière générale, y a-t-il dans la présentation standard, dans la présentation classique de la religion islamique, une place faite à l'autre qui ne croit pas, qui ne pense pas qu'il y a le même canal salvifique, le même canal pour Dieu, pour être sauvé? Comment cet autre est-il perçu?
En fait, il y a une image en fait dans le sens commun que le soufisme, c'est parmi les courants les plus ouverts, les plus tolérants. En fait, à travers ma recherche que j'envisage travailler, c'est de montrer qu'en fait, il n'y a pas une image monolithique du soufisme. Comme il n'y a pas un islam, mais il y a des islams. Il n'y a pas un soufisme, mais il y a des soufismes. De montrer en fait toute la diversité des pratiques en relation avec l'autre religieux. L'autre religieux dans l'islam, que ce soit classique ou chez les soufis, avait toujours sa place. C'est vrai, il y avait des moments de conflit et il y avait des moments de relations amicales, mais l'autre, on peut pas vivre sans l'autre et l'identité de chaque personne ne peut pas exister sans cet autre qui lui permet de voir soi-même comme miroir.
Ben oui, c'est toujours cette idée que si on est beau, c'est dans les yeux de quelqu'un. Si on est laid, c'est quelqu'un qui nous le renvoie aussi. Et si on est intelligent, c'est parce que quelqu'un nous l'a fait savoir. Et si on est stupide, c'est aussi quelqu'un d'autre qui nous l'a fait savoir.
Tout à fait.
Vous avez dit dans vos propos là que il y a l'islam classique et il y a le soufisme. Ça sous-entend que l'islam classique, ce n'est pas le soufisme. Est-ce que vous pouvez nous donner, pardon pour la question, une énième définition? Dans cette émission-là, nous aimons les définitions du soufisme, si ce n'est pas l'islam classique. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, le soufisme, c'est un courant d'islam. Donc, il n'est pas ailleurs, mais il est dedans. C'est un courant d'islam qui a sa propre vision du monde, ses propres pratiques, et qui a pu développer ses propres concepts avec ses penseurs, avec ses maîtres. En fait, le terme soufisme, le terme européen soufisme, est apparu sous sa forme latine soufismus en Allemagne au 19e siècle. Alors que l'origine arabe, en fait, du soufi est plus ancienne et plus complexe. Il y a une multitude des hypothèses étymologiques qui relèvent surtout des similitudes phonétiques de ce mot. Il y a une première hypothèse qui dérive du mot safa.
La pureté.
Voilà, la clarté, la limpidité, la purification. Et dans la tradition soufie, on parle que le chemin du soufi, c'est le chemin de purification de l'âme, de l'ego, pour atteindre un certain niveau spirituel. Deuxième hypothèse serait tirée du mot souf, la laine. Et cette définition, c'est la plus
répandue.
Pour faire référence aux habits que portaient les premiers soufis, pour montrer leur aspect ascétique. Sachant qu'en persan, le soufi est appelé derviche, donc qui signifie mendiant. Et en arabe, il est, dans, par exemple au Maghreb, dans certains confréries, il est appelé fakir, c'est-à-dire le pauvre. Donc,
qui renvoie au fakir en Inde.
Exactement, donc cet aspect ascétique. Troisième hypothèse, elle fait référence à la troupe de Ahl Sofa, c'est-à-dire les gens du banc. C'était un nom donné à un groupe de jeunes qui habitaient dans la mosquée de Médine au temps du prophète. Et d'ailleurs, une partie de la mosquée porte encore leur nom. Et il y a d'autres qui disent, et des fois, comparé à Al-Saf, les gens du banc, les gens du premier rang, pour faire référence à une élite. Et il y a cet aspect élite aussi dans le terme soufi qui dérive du mot safwa en arabe qui signifie une élite de population et d'ailleurs dans la tradition soufie on parle que le soufisme c'est la religion des gens al-khassa, les gens spéciaux à l'opposé de la religion din al-am, la religion
pour la plèbe, pour faire simple.
Exactement. Donc il y a cet aspect élitiste. Après il y a une autre hypothèse qui une cinquième interprétation qui essaye de faire le lien entre Sophia, la sagesse, et le mot soufisme, et mettant le soufi comme un chercheur de vérité. Et d'ailleurs dans la tradition soufie on parle des trois porte dans le soufisme. La première porte, celle de la charia, de la loi. La deuxième, celle de la tariqa, la méthode. Et la troisième, celle de la haqiqa, de la vérité, pour arriver à irfan, à la gnose.
À la gnose.
Voilà.
Et donc la dite sophia, la dite sagesse, c'est une théosophie parce que la sagesse est divine.
Tout à fait. J'ajoute une chose.
Je vous en prie.
C'est qu'il est très intéressant en tant que chercheur, en fait, de distinguer qu'il y a plusieurs nuances de ce mot. En fait, il y a le soufisme en tant que pensée, c'est-à-dire une vision, des concepts, des penseurs, des maîtres, etc., des écrivains. Et il y a le soufisme en tant que psyché, c'est-à-dire c'est des états d'âme. Et il y a le soufisme en tant qu'organisation sociale.
D'accord.
Qu'on voit présenté sous des formes de confréries, des groupes, etc. Et donc, dans ma recherche dans les sciences sociales, évidemment, je m'intéresse à l'organisation sociale, mais pas que, parce qu'on ne peut pas l'étudier sans les liens avec toutes les autres nuances.
Et pour la partie psychologique, il faudrait voir quelqu'un qui s'intéresse aux états d'âme, aux états d'être. La psychologie des profondeurs de Jung ou quelque chose comme ça dans le cadre du soufisme. Bien. Je vous remercie de nous avoir donné cette présentation quasi exhaustive, je peux même enlever le quasi, de toutes les étymologies possibles, celle du rang, celle de la pureté ou de la purification, celle du sofa, celle de sauf, donc la laine, la rebombure que portent les ascètes aussi, et celle de la sophia. Vous avez même parlé de la safwa qui serait une sorte d'élite ou de crème par rapport en opposition au reste du peuple. Donc voilà au moins une de ces cinq occurrences, de ces cinq étymologies possibles qui ont donné lieu au soufisme. Un autre point, Certains pensent que le soufisme serait ou est à la lisière de la tradition religieuse islamique, alors qu'avec vous et pour d'autres, c'est au cœur de la tradition. C'est la tradition religieuse spiritualisée, donc on est dans une approche mystique de la tradition religieuse.
Dans l'histoire du soufisme, certaines disent « Ah, le soufisme, c'est né au XIIIe siècle, il n'était pas à l'époque du prophète, etc. » Bon, comme disaient les soufis, le soufisme était une réalité sans nom. Et après, c'est devenu
un nom sans réalité.
Donc, en fait, dire soufisme, comme disaient les soufis, c'est un nom. Et le nom, c'est un mot que... on donne du sens. Cependant, la pratique d'islam, la spiritualité, le fond de l'islam reste spirituel. Pour dire que certaines qui sont contraires du soufisme, des fois, ils les sortent même de l'islam même.
Donc les salafistes, voilà. Par exemple, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui serait aux antipodes du soufisme dans la nébuleuse islamique?
En fait, actuellement, on a un discours hégémonique, en fait, entre le bon soufi et le mauvais salafi.
D'accord.
En fait, au sein de l'islam, il y a une multitude de courants, et chaque courant se présente en fait de sa manière. Donc le soufisme a sa propre manière de se présenter, a ses propres pratiques. Donc voilà, pour dire que c'est bon ou mauvais, ou c'est le vrai islam ou le mauvais islam, ou le cœur ou pas, personnellement...
Vous évitez comme une universitaire qui, avec la distance critique, vous n'allez pas prendre position pour donner le label du vrai islam, ça je le comprends.
Exactement.
J'entends bien, mais dans l'arc de cercle ou dans le spectre, ça va de quoi à quoi? Ça va depuis les pratiques dites radicales ou même dans le salafisme, certains distinguent le salafisme quiétiste du salafisme dit violent, et ça va crescendo jusqu'au soufisme bien intégré comme une intériorisation de la pratique religieuse islamique.
Le soufisme, depuis son émergence, en fait, comme j'ai dit, il était à l'époque du prophète, et ça s'est vraiment propagé après. Après la mort du prophète, où il y avait la division entre sunnites et chiites, et puis il y avait un troisième rang qui voulait pas entrer dans toutes ces histoires, donc il a préféré plutôt une voie apolitique, il voulait pas rentrer dans toutes ces discussions et toutes ces disputes. Donc c'était constitué de quelques proches compagnons du prophète et puis de certains ascètes. Ils ont resté indifférents à ces problèmes, mais ils n'ont pas établi une secte, ils n'ont pas établi une organisation.
Parce qu'il n'y a pas de vie monacale dans l'islam très tôt, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu rester un peu en copiant le cas des moines, il n'y a pas de monachisme dans la tradition religieuse islamique.
Après, avec le temps, ils se sont élargis pour compter dans leur quelques disciples tabi'in, et en connaissance de ses compagnons qui deviennent des maîtres et des aouliyas.
Tabi'in sont les suivants, voilà. Étymologiquement.
Exactement. Et après, il devint, on a vu l'émergence de certains maîtres, de certains saints. Et certains historiens, en fait, datent les premières manifestations du soufisme au 10e, 11e siècle. Cette période qui était connue par le renoncement ascétique en Syrie et en Irak comme réaction de la dynastie Omeyyade. Et aussi, on a vu l'apparition des malamatis en Asie centrale, etc. Il y avait beaucoup de conditions sociales, historiques.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les malamatis?
C'est un synonyme des ascètes, mais il attirait la malama.
La malama
c'est
une forme de blâme, c'est-à-dire que par moment ils se comportaient sciemment mal pour qu'on leur fasse leur reproche et pour qu'on puisse les blâmer. C'est une manière aussi d'atrophier leur ego et de ne pas apparaître comme des gens bien. Donc délibérément, ils agissent de la sorte. C'est curieux comme façon de faire, mais c'est ainsi qu'on appelle les malamati.
C'était une manière de contrarier l'ego. Ouais. Alors après, on a vu l'apparition des grands charismes. Ou à cette époque-là, tels que Rabi al-Adawiya, Bistami, Junaïd, Hallaj, Ghazali, etc. Et c'est en...
Vous nous avez donné quatre grands mystiques, dont une femme, c'est
tout
bien.
Alors, il y a beaucoup de mystiques qui sont peu connus dans l'histoire du soufisme, en fait, et qui dessinent, quand on cherche, il y avait des recherches anthropologiques dans certaines régions, au Maghreb et même en Asie, il y avait souvent une femme sainte qui, on laisse la partie, en parlant de la femme, de la position de la femme, c'est...
On aura en parler, d'autant plus qu'il y a le fameux mémorial des saintes, copié sur le modèle de Fariduddin al-Attar, l'apothicaire, qui lui a fait le mémorial des saints. On aura à en parler. En revanche, là, je ne voulais pas vous interrompre, Hazal Masbah, c'est que vous êtes en train de passer en revue l'émergence du soufisme, comment il s'est affirmé, quels sont les maîtres charismatiques, pour utiliser votre terme, et après.
Alors, au début, c'était une pratique solitaire et ou en petite collectivité. On n'avait pas encore les ordres confrériques tels qu'on voit actuellement. Et en fait, les confréries se sont fondées ensuite après une formulation écrite la plus aboutie de la doctrine ésotérique et initiatique de l'islam. Donc il y avait tous les maîtres qui ont écrit, il y avait des requêtes, et quand dès maintenant on fait référence à leurs travaux, et je cite Ibn Arabi, je cite bien d'autres, et donc et après on a vu l'apparition des confréries, la Qadiriya à Bagdad, il y avait le Maulawiya, Naqshbandiya, et maintenant on est devant une multitude de confréries. Alors, donc, comme j'ai dit, il y a l'organisation, le soufisme en tant qu'organisation sociale et le soufisme en tant que pensée, qui sont, et en tant que psyché aussi, qui sont tout le temps en relation et qui sont tout le temps en communication.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Hazal Masbah. Elle est à la fois universitaire, chercheuse en sciences sociales. Ses travaux portent sur le soufisme, le pluralisme du soufisme, le dialogue interreligieux dans ce contexte-là. Et surtout, ce qui nous intéresse dans ses travaux, c'est la place de l'autre, l'altérité, notamment l'altérité confessionnelle dans les contextes islamiques. Mais elle est aussi artiste. Et donc, vous combinez les deux, Hazal Masbah, la rigueur de la femme de science, et aussi vous donnez libre cours à votre créativité comme artiste. Pour cette deuxième partie de notre présentation toujours ternaire de l'émission, comment se fait-il que dans l'islam dit classique, alors je ne sais même pas si je peux parler comme ça, donc ce qui n'est pas dans le soufisme. Pourtant, le soufisme, même si vous n'aimez pas trop cette idée qu'il est au cœur de la tradition religieuse, y a-t-il une sotériologie? Alors, pour les auditeurs, la sotériologie, c'est le discours rationnel sur les voies du salut, sur ce qui sauve. On dit qu'Al-Ghazali avait une sotériologie. Alors, est-ce que la sotériologie peut exister en dehors du soufisme?
Le soufisme, c'est un courant parmi d'autres. D'accord. Eux aussi, dans les autres orientations aussi, ont leur propre manière, en fait, de pratiquer et de voir. Et aussi, ils ont leur part aussi de l'altérité, de la place de l'autre, etc. Je suis plus, comme mes études, je les ai orientées vers le soufisme, donc je connais plus ce volet et je ne peux pas parler de d'autres.
Parce que Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, hein, 1058-1111, était à développer, élaborer sa sotériologie comme théologien, même s'il a fini sa vie comme soufi et comme grand mystique. Alors, comment peut-on faire la part des choses? Je n'en sais rien. Mais pour revenir à vos travaux, c'est dans le cadre donc du soufisme que l'autre prend toute sa place et qu'on ne pense pas qu'on est seul dépositaire de la vérité absolue. En tout cas, on n'est pas seul détenteur de l'unique canal salvifique, celui qui sauve. Tout être humain, toute âme probe et intègre a sa place au paradis, disent-ils les soufis.
Il y a des germes d'altérité très fortes. Et je peux dire que les plus fortes, en fait, dans tout le patrimoine islamique, c'est que la vision, déjà, comment la pensée soufie est construite, en fait. La doctrine soufie, en fait, elle sort pas de l'idée islamique de tawhid, c'est-à-dire de l'unicité de Dieu et la négation de l'existence d'une autre, d'un associé. Néanmoins, la spécificité du soufisme, c'est qu'il reconnaît en même temps la diversité des apparences du Dieu unique, ainsi que les chemins menant vers lui. On dit les chemins qui amènent vers Dieu, ils sont au nombre des existences. Donc cette doctrine, en fait, a été exposée dans un grand nombre de traités, et notamment le traité le plus connu, celui d'Arabi, qu'on l'appelle Cheikh al-Akbar ou fils de Platon aussi.
Oui, docteur Maximus, hein, le plus grand maître, d'accord.
Alors, il a forgé en fait plusieurs concepts philosophiques très complexes. À titre d'exemple, il parle de Wahdat al-Wujud, l'unicité de l'être, et Wahdat al-Shuhud, l'unicité de l'apparence.
Ah. Témoignage.
Du témoignage, non. Voilà, du témoignage. L'idée principale de ces deux concepts est que Dieu existe partout et tout ce que l'on voit dans le monde et à travers les créations sont des manifestations de lui sous différentes formes et il est unique dans l'essence et divers dans la forme. Il est invisible en soi et apparent à travers sa créature. Il y a le concept aussi de tajalli, ce que Henry Corbin l'a traduit comme de la théophanie,
oui.
Qui désigne en fait le processus par lequel Dieu se rend présent et se déploie et se manifeste dans le monde des phénomènes. Et cette notion de tajalli permet d'une part d'expliquer le passage de l'un au multiple et du non manifesté au manifesté. Et en fait, cette idée, pourquoi je cite tout ça? Parce que cette idée de théophanie ou de wahdat al-wujud, etc., en fait, elle provoque une figure de l'altérité et de tolérance entre religions, puisque, en fait, la pluralité des théophanies a en effet pour corrélat la pluralité de religions, et que toutes sont des apparitions du Dieu révélé. Et même il y a aussi le soufisme occidental, surtout français, et il était très influencé par la figure emblématique de René Guénon, oui. Dont il parle de la tradition primordiale, cette tradition dont toutes les autres traditions y découlent. Donc on est déjà dans des germes d'altérité très fortes dans la pensée soufie. Après, moi, mon rôle en tant dans la sociologie, c'est de vérifier sur le terrain, à l'époque contemporaine, en France, la pratique.
Oui.
On a une pensée, maintenant on voit dans le concret.
Concrètement, exactement. Comment ça se passe. Alors, que pensez-vous, puisque vous avez évoqué à plusieurs reprises la théophanie, que pensez-vous de ceux qui disent que la suprême théophanie ou la sublime est la beauté, parce que Dieu se révèle dans ce qui est beau, puisqu'il est beau lui-même, il aime la beauté, selon un aphorisme bien connu. Dieu se révèle dans ses créatures, mais la plus belle ou la suprême théophanie est la beauté.
Hier, j'ai eu une inspiration.
Vous aussi, alors.
Il y avait le terme qui m'a marqué. Je l'ai entendu, le terme ihsan. Ihsan qui signifie un état de... On a l'islam, on a l'iman, la foi et l'ihsan, qu'on traduit des fois...
Alors, c'est le bel agir, c'est la bienfaisance, c'est l'excellence.
L'excellence.
Voilà, c'est... Oui. C'est un état, on va crescendo du culte, il y a la foi et il y a ce bel agir, cette bienfaisance ou cette excellence.
Tout à fait. Et le mot ihsan, ça m'a, j'ai dit, ihsan dans sa définition, c'est dire que être avec Dieu comme si on le voit et si on le voit, il nous voit. J'ai dit, étymologiquement, ihsan, ça vient de hasan.
Bien bou. Sûr.
Donc en fait, cet état de vision, ça vient avec la beauté en fait. C'est en relation et donc et malheureusement, je crois, ça c'est mon propre avis, c'est que la régression de notre communauté, c'est parce que on pratique des fois, mais on prend pas compte en fait de la beauté. On prend pas compte des éléments esthétiques pour ne pas être que dans la forme son âme, mais avec une forme et avec une beauté également.
Oui, c'est-à-dire que la régression va de pair aussi avec la laideur. Hélas, on peut parler longuement sur l'importance de la beauté, c'est vrai. La beauté élévatrice, salvatrice, la beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski dans L'Idiot. Là, ce que nous essayons de voir ensemble avec vous, Hajar Masbah, c'est cette idée que tout particulièrement, mais pas exclusivement, dans les voies soufies au pluriel ou dans le soufisme, de fait, de par la doctrine, de par la pensée des soufis eux-mêmes, et surtout leurs théoriciens, il y a une place qui est faite à l'autre. Donc l'altérité est omniprésente, elle est intrinsèque même à la pensée soufie. Alors vous nous avez cité Ibn Arabi, il y a le fameux poème que vous connaissez très bien, du traité d'amour, oui. De l'interprète des désirs ardents. En réalité, le titre exact. Alors, que dit-il en substance ?
Alors, mon cœur est devenu capable d'accueillir toutes les formes. Il est pâturage pour gazelles et abbaye pour des moines.
Il est Kaaba pour le pèlerin.
Il est les Kaaba pour les pèlerins. Le feuillet de la Torah et le feuillet du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion et ma foi.
Et ma foi. Que pensez-vous de ceux qui disent, oui, ça c'est le poème connu d'Ibn Arabi, rappelons toujours oui. Que c'est 1165-1240, mais c'est aussi dédié, ou c'est parce que ça rencontre avec Harmonie, Nidam, la fille du cheikh de la Mecque qui lui a inspiré cela. Pensez-vous que on a besoin de support, et là le support est un être humain, c'est la beauté considérable de cette belle femme dont même le nom est évocateur, même le nom est un programme, elle s'appelait Harmonie. Je vous pose simplement la question, puisque oui. Vous connaissez la vie de... Vous êtes une des biographes d'Ibn Arabi. Est-ce que ce poème est venue comme une inspiration directe pour Dieu, ou en réalité ça fait un petit ricochet, si je puis dire, par la figure d'Harmonie?
Bah, tout à fait. En fait, l'amour en fait tient une place centrale dans l'enseignement du soufisme. Et tôt dans l'histoire de l'islam, les grands mystiques musulmans ont en effet consacré plusieurs traités à ce thème. Et en fait, ce qui rend un peu, qui moi aussi quand je lis les poèmes des soufis, des fois je pose la question, est-ce qu'on parle de Dieu ou on parle d'une femme?
Parce que quand il s'agit des hommes, mais parce qu'il y avait aussi des mystiques femmes.
Exactement. Oui, quand il s'agit des hommes. Et donc et où il y a aussi la manière d'écriture, on comprend pas, est-ce qu'on parle d'un amour charnel ou un amour spirituel? Et donc en fait, et c'est ça qui fait la complexité de la poésie soufie et sa beauté également, parce que comme disait le soufi, le langage soufi, l'aura soufia ishariya. Comment je peux traduire
le langage soufi se fait par allusion, où il faut savoir décoder.
Tout à fait. Et donc, et c'est ça qui a fait la malcompréhension, tout le malentendu autour du soufisme. Et donc, l'amour, en fait, l'amour dans le sens soufi est très compliqué. Et même Ibn Arabi, il dit qu'en fait, que l'amour de l'autre, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans passer par l'autre, qui est le miroir de chaque croyant.
Oui, et qui est aussi le vicaire de Dieu sur terre, vicaire et icône de Dieu sur terre, parce que la notion du vicariat est centrale dans la pensée théologique islamique et a fortiori dans le soufisme, l'homme étant le vicaire de Dieu. Donc si on prétend aimer Dieu et on ne le traduit pas par des actes concrets à l'égard de son vicaire et de son image, de son icône sur terre, c'est un mensonge ou c'est une hypocrisie. Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas, même s'il nous voit, pour revenir à cette notion de bienfaisance ou d'excellence ou de bel agir que vous avez évoqué, et alors que l'être humain, qui est récipiendaire du souffle divin, qui est réceptacle de cette effusion de bonté et de miséricorde, est le premier à être aimé. Donc si je résume un peu ces propos, et les vôtres aussi, donc la place de l'amour est tout aussi prépondérante dans le soufisme, ce qui explique cette place laissée à autrui.
Tout à fait, parce que l'être aimé devient la manifestation de la présence divine et toute autre personne. Et c'est une épreuve, en fait, de cette manifestation. Après ça, comme je dis, c'est dans la pensée soufie. La place de l'autre, sociologiquement, c'est à vérifier, et c'est ce que je compte faire lors de ma thèse, c'est de voir sociologiquement, quelle place vraiment donne-t-on à l'autre? Parce que dans les discours, on a souvent, voilà, on a déjà des choses dans le discours, mais est-ce qu'on les met en pratique? C'est à vérifier. Je suis dans le début de ma recherche.
Alors, y a-t-il des prémices ou pas? C'est-à-dire que vous essayez, oui, de voir quel est le, pardon pour le terme, quel est le gap, quel est l'hiatus, quelle est la distance qu'il y a entre la théorie ou la pensée soufie et ceux qui prétendent être eux-mêmes soufis, ce qui est déjà en soi problématique, parce que le véritable soufi, c'est celui qui est incognito, qui ne se définit pas comme tel. Mais admettons que ceux qui se présentent ainsi, comment vivent-ils? Quelle place laissent-ils à l'autre, quel qu'il soit? Et donc, vous êtes au début de vos travaux, ça nous l'avons compris. Mais à la fois votre intuition et les axes de votre recherche, vous reviendriez pour nous parler des résultats de ce que vous avez fait. Mais pour l'instant, comment les choses se présentent-elles?
Alors, en France particulièrement, parce que on est déjà dans un pays où il y a un pluralisme religieux, pluralisme de convictions, et sous l'égide de la laïcité, qui permet la liberté de chacun d'exprimer ses propres croyances, ses propres positions.
Et de pouvoir changer de croyance.
Tout à fait. Et donc, on est déjà dans un contexte pluriel. Donc, le soufisme, il s'adapte en fait, il s'adapte au contexte social, politique, culturel aussi, où il est. il est obligé.
Et c'était le cas à travers l'histoire. Donc il y a une malléabilité du soufisme à épouser les contingences sociales et politiques du moment.
Et donc, quand on est dans ce contexte pluriel, l'autre est un composant essentiel, socialement parlant, parce qu'on ne peut pas, si les soufis restent que entre les soufis, voilà.
Et même un groupe humain est composé aussi d'égaux,
d'être
égaux, enfin de pluriel d'un égo.
Tout à fait. Et donc, après, ce que j'ai remarqué, d'après mes premières observations sur le terrain, parce que moi, je suis dans la recherche plus empirique, j'aime expérimenter le terrain, observer, parler avec les gens pour pouvoir tirer ensuite des hypothèses et des suppositions. Donc, j'ai remarqué que dans le soufisme, il y avait beaucoup d'ouverture d'esprit et une présence aussi de plusieurs composants des autres religions. Il y avait des activités qui se font en France avec la présence des soufis et donc et même comment le soufi est perçu de l'extérieur. J'ai fait par exemple, j'étais il y a 2 mois au pèlerinage islamo-chrétien au Sept Dormant et j'ai distribué un formulaire pour voir, pour avoir une idée des publics qui visitent ce pèlerinage, cet événement. Et j'ai posé une question, que pensez-vous parmi les courants de l'islam qui sont les doctrines les plus ouvertes selon vous? Et donc, une majorité a répondu le soufisme. J'ai mis sunnisme, chiisme et soufisme et autres pour avoir d'autres, parce qu'il n'y a pas que ces trois, mais c'est les plus connus. Et donc une grande majorité répondait c'était le soufisme. Donc ça m'a interpellée cette statistiquement pourquoi on considère le soufisme comme le plus ouvert en France.
Et il y a deux choses, Hajar Masbah. Oui. Il y a d'abord le pèlerinage islamo-chrétien ou les sept dormants d'Éphèse. Si on avait un peu plus de temps, on aurait passé davantage d'explications. Ce sont ces sept dormants qui, ayant fui sous l'empereur Décius, Éphèse, et qui sont venus jusqu'en Bretagne, dit-on, mais pas uniquement. Et c'est le génie de Louis Massignon d'avoir fait greffer sur le pardon breton une rencontre islamo-chrétienne. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le soufisme comme autre chose que le sunnisme et le chiisme. On ne parle pas d'autres obédiences. Et pourtant, je pense aussi que ce sont dans vos travaux, le soufisme transcende le clivage sunnite-chiite, puisqu'il y a un soufisme en contexte chiite et un soufisme en contexte sunnite. Que pensez-vous de cette dernière idée?
Le soufisme a transcendé en fait ces deux orientations. On trouve, comme vous avez dit, un soufisme sunnite, un soufisme chiite, un soufisme, des fois j'entends des termes, un soufisme progressiste, un soufisme libéral, un soufisme sans islam, un soufisme new age.
Thank you.
Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui, nous parlons de l'altérité confessionnelle, particulièrement dans la doctrine soufie, mais pas uniquement, avec Hazel Masbah qui prépare une thèse de doctorat sur le sujet. Vos travaux de recherche sont portés d'abord en sciences sociales et puis vous êtes artiste. Donc il y a aussi tout l'aspect de la sensibilité de l'artiste. Qu'est-ce que c'est que cette idée, effectivement, de soufisme sans islam ? Pensez-vous, comme certains, parce que des musulmans n'ayant pas pu assumer leur islamité dans un contexte hostile, ne se disent plus musulmans, disent qu'ils sont soufis, et puis les non-musulmans ayant vu que les soufis se comportent plutôt bien, disent « Ah ben voilà, il vaut mieux que j'ai affaire à un soufi que d'avoir affaire à un musulman ».
C'est parmi les problématiques intéressantes à voir, en fait, comment chaque personne s'identifie, comment chaque personne se présente et pourquoi il se présente ainsi. Et quel est alors, en fait, chaque individu a un itinéraire, en fait, qui identifie sa présentation et des fois, comment on se présente nous permet de se positionner dans un champ précis. Et donc, j'ai entendu des personnes qui s'identifient comme des soufis et non des musulmans. Il y avait certaines qui se sont intéressées par cet aspect mystique de la pensée soufie, mais sont adhérées vraiment à tout le système canonique de l'islam. Donc il y a cette dissociation. C'est un phénomène en fait social maintenant dans la sociologie de religion où on est devant une dissociation entre le spirituel et le religieux, entre l'aspect pratique et l'aspect de psyché. Donc voilà, ces personnes-là, ils s'identifient pour affirmer une appartenance à la pensée, mais pas forcément à la pratique.
D'accord. Et que pensez-vous de ceux qui parlent d'un soufisme sans islam ou le soufisme New Age ? Parce que les routes de Katmandou, c'était tari des personnes qui y vont. On retrouve dans le soufisme ce qu'on allait chercher ailleurs, en Asie centrale.
En réalité, je n'ai pas de jugement sur ce, parce que pour moi c'est un phénomène que je dois comprendre.
Votre regard est un regard froid, j'entends bien, mais quelle est l'explication que vous pourriez donner?
Alors maintenant on est dans, surtout en Occident, il y a tout le phénomène d'individualisation de la religion. Et en fait, de sortir un petit peu de cet aspect d'appartenance communautaire. Et donc, cette coupure avec l'appartenance collective, même si, qu'on se considère soufi, quand même, on fait référence à toute une collectivité également. Mais cette volonté de coupure avec tout le prisme collectif, donc, fait que certaines personnes s'identifient à la pensée, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pas à la collectivité et pas à l'organisation sociale. Donc,
bien. Hazel Mosbah, on a parlé d'altérité. L'altérité radicale, c'est celle du genre. Donc, les relations hommes-femmes dans le soufisme sont-elles magnifiées? Sont-elles sublimées? Sont-elles mises en exergue d'une manière merveilleuse ou... On a toujours affaire à des hommes et des femmes, et parfois à l'idiotie des hommes, à leur arrogance, à leur suffisance, à leur comportement, souvent phallocrate, parfois misogyne, en tout cas sexiste et machiste. Ou est-ce que dans le soufisme, le comportement des hommes est beaucoup plus civilisé et spiritualisé?
En fait, la femme dans le soufisme, dans la littérature soufie, dans la pensée soufie, a une place spéciale, même divinisée. Rumi dit que la femme est le rayon et la lumière de Dieu, et elle n'est pas seulement une créature, mais également un créateur. Tout l'univers est dans son ventre. Donc, voilà pour
ça, c'est pour Rumi.
Rumi. Et en fait, quand on voit dans la pensée soufie également, même cette idée du genre, ça devient plus deux espèces différentes, mais des principes féminins, masculins qui existent dans la même personne et qui se manifestent différemment. Donc on est déjà dans une autre vision en fait de la question du genre.
C'est-à-dire qu'on a un androgyne originel qui s'est sexué par la suite et que l'amour entre l'homme et la femme participe de cette volonté de cicatriser la blessure première due à la au fait d'avoir eu un homme et une femme, masculin et féminin.
Tout à fait. Donc, alors ça, c'est au niveau de la pensée, au niveau de la psyché, mais au niveau de l'organisation sociale, comme je répète, à vérifier. D'accord. Quelle est vraiment la place des femmes dans les organisations sociales, dans les organisations soufis, quelle place occupe-t-elle? Maintenant, on voit dans le soufisme, il y a des maîtres soufis, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi les hommes soufis. Parce qu'en fait, la pensée, elle influe en fait le comportement, c'est sûr. Et donc...
Mais vos recherches portent sur la France uniquement. Donc vous voulez vérifier s'il y a une adéquation entre le discours tenu par les maîtres soufis et puis les doctrines, les pensées qui sont dans les livres, et comment sont-elles incarnées justement par les maîtres, hommes ou femmes maintenant, et le comportement des adeptes.
Et voir sociologiquement quelle place a la femme, par exemple, dans la confrérie, comment on voit la femme, comment on voit l'autre religieux, comment on voit toute la diversité, en fait, toutes les problématiques qui peuvent être posées, en fait, et voir comment on les aborde.
Oui. J'ai eu l'occasion d'inviter la femme imam Kahina Bahloul ici, devant ce même micro. Vous pensez que dans les cas soufis, dans les situations du soufisme, l'imama des femmes aurait moins de réticence que dans l'islam classique, par exemple?
Alors, justement, par exemple, l'année dernière, j'étais dans une confrérie et ils ont abordé cette question et j'ai vu l'acceptation de cette idée du que Ibn Arabi également, et même dans le Coran, il n'y a pas d'interdiction précise en fait de ce phénomène. Donc il y avait, j'ai observé ça, il y avait une acceptation de cette idée.
Parce qu'on raisonne, on réfléchit, et on laisse place, certes, au langage du cœur, mais surtout celui de la raison. Dès lors qu'il n'y a pas d'interdiction formelle, et encore, il n'y a aucune raison de laisser subsister une anomalie. L'imamat n'est pas que pour les hommes. Donc ça, vous l'avez perçu, et que le débat étant ouvert, qu'il n'y avait aucune réticence ou aucun blocage dans les confréries que vous allez visiter. Alors, vous les visitez comme chercheuse, ils le savent, ou vous introduisez, pardonnez-moi cette question qui vient comme ça au dernier moment de l'émission, où ils savent qu'ils sont étudiés, ou est-ce qu'ils savent ou ils ne savent pas et vous y allez comme membre de la confrérie?
Alors, avant de répondre à cette question, je veux rebondir à la question de l'imamat. En fait, je crois que c'est pas ces questions aussi de personnes, parce qu'il y avait parmi les soufis aussi ceux qui refusaient. Ils disaient, ils avaient une position de défense.
Donc finalement, les hommes sont les hommes. Donc il faut savoir les convaincre, quel que soit le contexte et le milieu où ils se trouvent.
Il y a l'organisation, mais il y a aussi des individus qui sont acteurs et qui sont conscients, et que chacun, des fois, ils sont pas tous d'accord avec peut-être le discours que le maître peut porter. Et donc voilà, il y a toute une dynamique intérieure au sein des confréries. Par rapport à la deuxième question
de votre approche,
mon approche. Alors, au début, je présente que je fais la recherche, mais quand je suis au sein d'une confrérie, oui, je fais la recherche. Mais il y a aussi, parce que je suis en contact avec des humains.
Oui.
Donc, l'être humain, ce n'est pas que un objet que je le regarde avec un regard froid. Non. Il y a des interactions, il y a des moments de sympathisation, il y a aussi des fois, j'apporte des choses que il y a aussi, voilà. Donc, il y a les deux. J'essaie de créer un équilibre entre ma position de chercheur et ma position d'être humain.
Oui. C'est Bourdieu qui dit, les êtres humains ne sont pas des faits sociaux, ce sont des êtres qui souffrent et qui jouissent aussi, il faut en tenir compte. Merci, merci infiniment, merci Hajar Masbah d'être venu nous expliquer la place de l'altérité, notamment l'altérité confessionnelle dans l'islam et tout particulièrement dans l'islam soufi. C'était Question d'Islam. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelu. Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.